Vous avez sous les yeux, je vais commencer par rectifier une erreur que j'ai commise l'année dernière. C'est un portrait de François Ier, mais par Jean Clouet, et non pas par François, comme je l'ai dit l'an dernier. Jean Clouet, qui est le père de François, voilà. Portrait daté de 1535, qui est d'autant plus intéressant, donc il a été réalisé pendant les travaux du château de Fontainebleau, complètement contemporain, donc. Je vais commencer par faire un bref rappel historique nécessaire à la compréhension des événements. Les quatre souverains français, Charles VIII, Louis XII, François Ier, Henri II, ont mené une dizaine de campagnes militaires en Italie. Ces guerres successives n'ont pas été déterminantes sur le plan politique, mais tous les souverains sont revenus en France accompagnés d'artistes et de lettrés qui ont joué un rôle considérable dans la vie culturelle du Royaume de France. L'origine de ces guerres d'Italie remonte à René d'Anjou, appelé le roi René. Il hérita du royaume de Naples en 1435, en vertu du testament de Jeanne II, reine de Naples, et se battit de 1438 à 1442, sans succès, contre le roi d'Aragon, Alphonse V, pour faire valoir ses droits. Ce prince d'origine espagnole est le futur créateur du royaume des deux Siciles, composé de la Sicile et du royaume de Naples. René d'Anjou rentra donc en France en 1442, ne gardant du royaume de Naples que le titre de roi de Jérusalem et de Sicile, titre purement honorifique. René d'Anjou meurt en 1480, son neveu Charles III du Maine hérite des droits sur le royaume de Naples, mais il meurt en 1481. N'ayant pas de descendance, il désigne comme héritier le roi de France. Ses droits sur le royaume de France, sur le royaume de Naples, pardon, passent donc à Louis XI, qui meurt en 1483, et ses droits reviennent alors à Charles VIII. Charles VIII va réclamer son dû en 1492. Il décide d'organiser une expédition militaire pour récupérer la couronne de Naples. Le 25 janvier 1494, Charles VIII, il a 24 ans à cette époque, se met en marche pour l'Italie à la tête de 30 000 hommes et d'une importante artillerie. C'est le début des guerres d'Italie menées par les rois de France. Les Français s'emparent sans difficulté du royaume de Naples et le pillent comme il faut. Le 12 mai 1494, Charles VIII fait une entrée officielle à Naples. Il est couronné roi de Naples au début de l'année 1495, sans avoir eu à se battre. Son projet, à la fois ambitieux et irréaliste, consistait, une fois devenu maître du royaume de Naples, à entreprendre une nouvelle croisade contre l'Empire ottoman, dont le but final était la reconquête de Jérusalem. Mais l'arrogance de l'occupant français provoque l'hostilité de la population. En outre, une alliance anti-française se constitue dans le Nord à l'instigation de Venise. Pour éviter d'être coincé par la coalition, Charles VIII décide de quitter le pays le 20 mai 1495 avec le gros de son armée. Le 6 juillet, Charles VIII bat la coalition dans les Alpes à Fornoux, mais les bagages et les provisions de son armée sont pillés. Et Charles perd tout le fruit des rapines de la première guerre d'Italie. Il arrive en France en octobre 1495. Le bilan politique de cette première guerre d'Italie est nul, mais il rapporte un trésor immatériel qui allait créer le choc de la Renaissance en France. Dès 1495 à Naples, Charles VIII engagea 22 artistes et artisans italiens spécialistes des techniques les plus diverses. Vers 1496, il fait venir à Amboise des artistes, sculpteurs, jardiniers, orfèvres et architectes, comme Guido Mazzoni, sculpteur et peintre, Girolamo Pacchiarotti, qu'on connaît plus en France sous le nom francisé de Jérôme Pacchereau, peintre, Pacello da Mercogliano, qui est jardinier ingénieur hydraulique, et en particulier deux architectes, Domenico da Cortona et Fra Giovanni Giocondo da Verona. Les historiens de l'art se sont disputés pour savoir quelle fut l'influence réelle des 22 artistes ou artisans italiens ramenés par Charles VIII, car il ne subsiste aucun monument important que l'on puisse leur attribuer de façon certaine. À son retour en France, Charles VIII a fait construire le logis des Sept Vertus au château d'Amboise. Des artistes italiens auraient pu contribuer à ces travaux, mais ce logis a été détruit au début du XIXe siècle et rien ne permet de prouver leur intervention. Parmi ces artistes, Fra Giocondo mérite que l'on s'intéresse tout particulièrement à lui. Il est l'un des esprits universels de la Renaissance, précurseur de Léonard de Vinci, et très respecté des grands humanistes français comme Guillaume Budé et Jacques Lefebvre d'Étaples. Il avait pour principale occupation la littérature, mais il étudia aussi la botanique, l'agriculture et les sciences les plus variées. Cependant, la science qui recueillit sa préférence fut l'architecture. Il remit à l'honneur Vitruve. Les connaissances en architecture de Fra Giocondo, jointes à une incroyable érudition, le firent qualifier par Guillaume Budé de très parfait architecte et par Vasari de excellentissimo architetto. Il circula dans plusieurs capitales italiennes où il laissa quelques réalisations notoires à Venise, Padoue et Vérone. Fra Giocondo était à Naples en 1495 à l'arrivée des Français et Charles VIII fut très impressionné par le génie et l'érudition du moine dominicain. Il lui offrit de s'attacher à lui. On le retrouve en Boise en 1497 en qualité de deviseur des bâtiments. Il devait, en qualité de deviseur, exécuter les plans et devis, mais aussi le chef-d'œuvre de l'ouvrage en relief, la maquette, qui permettait de juger de l'aspect final du bâtiment. À Amboise, la démolition de nombreux bâtiments du château ne permet plus d'identifier la marque de l'architecte du roi. Une très grande partie de l'immense château, quasiment les trois quarts, a été démantelée durant le Premier Empire. Parmi les artistes appelés par le roi, Girolamo Pacchiarotti, en français Jérôme Pachereau, 1463-1540, a été chargé de réaliser le tombeau des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, enfants qui s'appelaient Charles Orlan et Charles. Il a été réalisé avec l'aide de sculpteurs français. Les angelots auraient été sculptés par Guillaume Regnault et les gisants par Michel Colombe. Ce tombeau en marbre de Carrare fut initialement placé en 1506 à la croisée de la basilique Saint-Martin de Tours. Sauvé à la Révolution, il a été déplacé en 1834 dans la cathédrale de Tours où il se trouve toujours. Véritable chef-d'œuvre du répertoire italianisant, cette création de la première Renaissance française a exercé une influence déterminante sur les sculpteurs tourangeaux de l'époque. Le monument funéraire de Charles VIII va aussi marquer les esprits. De par son emplacement privilégié dans la basilique de Saint-Denis, il allait attirer tous les regards, il devait donc être impressionnant. L'exécution fut confiée à l'Italien Guido Mazzoni, peintre et enlumineur, que Charles VIII avait ramené de ses conquêtes italiennes et qui était passé au service de Louis XII. De fait, ce tombeau surpassait tous les autres à Saint-Denis par ses dimensions et son ornementation somptueuse. Il était surmonté de la statue monumentale en bronze doré représentant le roi agenouillé, absorbé dans la prière. Il était revêtu de la robe bleue à fleurs de lys dorée, réalisée en émail. C'était assurément l'élément le plus remarquable de ce tombeau unique par la somptuosité. Comme tous les tombeaux qui n'étaient pas en pierre, il fut fondu dès 1792. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces guerres d'Italie, c'est un sujet extrêmement complexe. Les souverains français qui succèdent à Charles VIII vont tous tenter de récupérer soit le royaume de Naples, soit le duché de Milan ou d'autres territoires ultramontains. Tous justifieront leur campagne par des droits héréditaires divers. Tous se trouveront confrontés à des retournements d'alliance et ne pourront conserver leurs conquêtes. Louis XII va mener trois campagnes pour tenter de récupérer le duché de Milan. Il reviendra lui aussi avec des artistes italiens, en particulier les frères Giusti, d'origine florentine, appelés en France les frères Justes. Le roi meurt en 1515. Louis XII, pardon. En 1516, François Ier commandera le mausolée de Louis XII et d'Anne de Bretagne à l'atelier des sculpteurs italiens Antonio et Giovanni di Giusto Betti, les frères Juste, ou Giusti en français, enfin voilà. Le roi et la reine sont disposés en orang sur la terrasse supérieure. La nudité des transis dans le temple traduit un réalisme macabre. Les transis sont réalisés d'après le moulage à la cire des deux cadavres pendant l'embaumement. Les quatre vertus cardinales, la justice, la force, la prudence et la tempérance, ornent les angles du mausolée. Les 12 apôtres sont disposés sous les arcades. Des artistes français ont aussi collaboré à ce monument. La sculpture est sans doute de Michel Colombe et de Guillaume Brugnon. À l'origine, le monument se trouvait dans la chapelle des Valois, qui était accolée à l'abbatiale de Saint-Denis. La chapelle a disparu, le tombeau se trouve dans la cathédrale actuelle. Pour la première fois, les souverains sont représentés deux fois, en gisant, avec leur corps nu, vieilli et corrompu par le temps, posé sur le sarcophage, et en priant en majesté, agenouillé au-dessus du monument et regardant vers l'autel. François Ier mènera 5 campagnes en Italie au cours de sa première campagne de 1515 à 1516, la 5e guerre d'Italie. Il bat les Suisses à Marignan le 14 septembre 1515 et reprend possession du Milanais. À cette occasion, François Ier est armé chevalier par Bayard. Il est ici représenté par Louis Ducis en 1817. C'est un peintre du 19e, évidemment. Un événement important de l'année 1516, c'est probablement vers le mois d'octobre que Léonard de Vinci est accueilli par le roi à Amboise. Il mourra le 2 mai 1519. L'année prochaine sera le 5e centenaire de son décès. Mais en mars 1521, la guerre entre François Ier et Charles Quint éclate. C'est la 6e guerre d'Italie. Lors d'une tentative de récupération du Milanais, Charles Quint bat François Ier à Pavie le 24 février 1525 et le fait prisonnier. C'est après son retour de captivité en 1526 qu'il entreprendra la reconstruction du château de Fontainebleau. François Ier mènera 3 autres guerres en Italie. Il meurt en 1547. Henri II, lui aussi, mènera 2 campagnes en Italie. La dernière se terminera en 1559 par le traité de Cateau-Cambrésis. Ces dernières aventures moyenâgeuses n'auront que peu de résultats politiques positifs. C'est dans le domaine des arts que ces apports seront le plus bénéfiques. L'esprit de la Renaissance va souffler sur la France. Un mot sur les premiers châteaux Renaissance en France. Vous avez sous les yeux le château de Gaillon, sous la forme d'une gravure qui a été réalisée par André du Cerceau et publiée dans un livre extraordinaire, un document essentiel, intitulé « Les plus excellents bâtiments de France ». C'est une anthologie des plus belles réalisations de l'architecture française de la Renaissance. Gaillon est situé entre Paris et Rouen, en bordure de Seine. Georges d'Amboise est élu archevêque de Rouen en 1492 et cardinal en 1498. Il est nommé principal ministre de Louis XII la même année. Il était dans l'entourage du roi de France lors de la conquête du Milanais en 1499. Lors de ses séjours en Italie, il a été émerveillé par l'art et l'architecture. Pour réaliser son palais italien, il fit reconstruire et décorer son château de Gaillon en Normandie par une équipe de peintres, sculpteurs et architectes, entre autres lombards, d'origine lombarde. S'il fait appel à des architectes français pour la conception de l'ensemble, la quasi-totalité des sculptures et décorations sont en effet réalisées par des artistes italiens. Guido Manzoni, encore lui, exécute les décors de médaillons. Jérôme Pacherot, est l'auteur des marbres de la chapelle et de la fontaine centrale. Fra Giovanni Giocondo est responsable des décors sculptés. C'est également un Italien, Pacello da Mercogliano, qu'il confie la réalisation d'un vaste et harmonieux jardin aujourd'hui disparu. Un mot sur l'organisation de ce château. L'entrée principale est ici. On verra le pavillon d'entrée tel qu'il est actuellement. Derrière le pavillon d'entrée, il y a une cour qui était bordée par une série d'arcades. Dans l'angle, il y avait un escalier monumental, un petit peu à la manière de Blois. Et au centre, une fontaine, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous demande de mémoriser le fait que la fontaine était au centre de la cour du château lui-même. Et puis, derrière, s'étendaient les jardins. Sur le côté, ici, il y avait une extraordinaire chapelle à deux niveaux. Il n'en reste plus qu'un niveau, on verra le résultat. Suivi d'une galerie à l'italienne et une tour, on verra la maquette aussi, extrêmement décorée. Non, mais quand je parle ici, c'est quand je me tourne, il doit y avoir quelque chose. Donc voilà le château actuel, avec ce pavillon d'entrée qui a été restauré. Il était dans un état lamentable, je vous raconterai tout ça. C'est curieux, il y a une interférence qui se produit, c'est ça, quand je me tourne. Le pavillon d'entrée avec la cour intérieure, les tentatives de reconstitution ou de reconstruction sont extrêmement compliquées. Il n'y a que quelques arcades qui ont été remises en place, et ici on verra ce qui se passe par la suite. Ce château tel qu'il a été restauré n'a plus grand chose à voir malgré tout, malgré les gros efforts qui ont été réalisés avec le château du cardinal d'Amboise. Voilà le pavillon d'entrée. Et voilà la galerie italienne, à l'italienne sur le côté. Ici se trouvait une chapelle dont on va voir son état sur la maquette qui va suivre. Il ne reste plus pratiquement que l'étage inférieur. Ici une tour qui était surmontée d'un décor absolument fantastique. Voilà, tel qu'il était à l'époque du cardinal d'Amboise, vous voyez, il ne reste plus que l'étage inférieur, toute la partie supérieure, extraordinairement décorée, monumentale, magnifique, a disparu, et là, la partie supérieure de la tour d'angle, lui aussi, a disparu. Enfin bon, toutes les superstructures ont disparu. Voici la cour intérieure. On a tenté de restaurer ces arcades, mais elles sont malgré tout un peu incomplètes. Et tout l'escalier d'angle monumental ouvert, comme à Blois, lui aussi a disparu. Au centre se trouvait la fontaine dont nous parlerons dans quelques instants. Voilà ce qui reste de cette galerie et la fontaine. En 1508, une fontaine monumentale en marbre de Carrare est acheminée d'Italie pour être placée dans la cour d'honneur. La République de Venise en a fait don au cardinal d'Amboise et Antoine du Cerceau est le seul à en avoir fait un dessin. Il en a fourni les dimensions. L'ensemble devait mesurer 7 mètres de hauteur. Comme elle n'avait jamais été entretenue, elle fut démolie en 1757. Et on retrouvera la coupe inférieure de la fontaine au château de la Rochefoucauld. Voilà, elle est même en plein air, absolument pas protégée apparemment. Je ne connais pas ce château, il faudra que j'y aille un jour. Donc le cardinal a collectionné un grand nombre d'œuvres d'art venues d'Italie. Il a contribué à faire venir en France les premières œuvres de la Renaissance. Il a commandé un tableau de retable à Andrea Mantegna et il a possédé un tableau du Pérugin. Il fit aussi venir des artistes italiens comme Andrea Solario. Les nombreux témoignages de l'époque attestent de la forte impression que le château du cardinal exerça sur ses contemporains. Il est désigné à l'époque comme le plus beau et le plus superbe lieu qu'il y ait dans toute la France. qui devient le premier château de la Renaissance en France. Ainsi, Georges d'Amboise a créé le premier foyer de la Renaissance italienne en France. Après la Révolution, le château a été transformé en prison pour mineurs délinquants et au début du XXe siècle en garnison. Une grande partie du château a été détruite, les travaux de restauration commencent en 1977, mais les restaurations entreprises ne peuvent qu'évoquer la splendeur et le raffinement des décors, des décorations initiales. Le château de Bury en Blaisois, comme son nom l'indique, près de Blois. Il fut construit par Florimond Robertet. La gravure que vous avez sous les yeux est également extraite du recueil d'André du Cerceau. Florimond Robertet était grand conseiller argentier de plusieurs rois, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Dès 1498, il est au service de Louis XII et devient rapidement le conseiller du roi. Il est proche du Premier ministre, le cardinal Georges d'Amboise, dont nous venons de parler. À la mort de ce dernier en 1510, Robertet remplace le cardinal comme Premier ministre. Robertet est très cultivé. Ses charges au sein du gouvernement l'amènent à accompagner à plusieurs reprises les rois dans leurs expéditions militaires en Italie. Lors de ses voyages, il a la possibilité d'admirer les œuvres d'art de la Renaissance italienne. De plus, sa collaboration étroite avec le cardinal Georges d'Amboise a vraisemblablement influencé ses propres choix artistiques. En 1511, il fit l'acquisition du domaine de Bury, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Blois, près de son souverain qui habite à Blois. Il décide de faire construire un splendide château s'inspirant fortement de l'art italien, un parc d'agrément avec jardin à la française, parachever l'œuvre. La régularité du plan, la recherche de la symétrie, la proximité des jardins et l'ordonnance des façades caractérisent cet édifice reconnu comme le précurseur du château Renaissance. Le château est aussi célèbre pour une autre raison. Robertet a décoré son château avec des œuvres d'art comme une peinture de Léonard de Vinci, la Vierge au Dévidoir. Le tableau original a disparu, mais on le connaît par des copies. Un mot sur l'organisation et sur la partie quand même la plus intéressante, on y regardera de toute façon. La partie la plus intéressante est cette façade qui donne sur le jardin, doit donner sur une rivière. Ici c'est la chapelle du château, avec un escalier tout à fait intéressant à deux rampes d'accès. Mais c'est surtout la partie centrale. Évidemment, les tours d'angle rappellent un petit peu l'art médiéval. En revanche, si on ne regarde pas, si on ne tient pas compte des deux tours latérales, la partie centrale est vraiment extrêmement novatrice pour l'époque. C'est ce qui en fait l'intérêt de ce château. Cependant, l'histoire d'une autre œuvre d'art exceptionnelle nous fait rêver. La seigneurie de Florence, je suis un peu en avance. voilà la maquette aussi du château, j'insiste encore une fois sur la partie centrale qui est tout à fait novatrice. Voilà. Une très jolie maquette. La seigneurie de Florence devait à la France une somme d'argent considérable. Robertet en réclamait le paiement, tout en laissant entendre qu'il pourrait arranger la question de cette dette s'il recevait en contrepartie une sculpture qui l'intéressait, un David en bronze de Michel-Ange. David en bronze qui existait, qui était connu. À la fin de 1508, le David est livré à Robertet. Il sera finalement placé dans la cour d'honneur du château de Bury, où la statue apparaît dans l'un des dessins d'André du Cerceau. Cette sculpture monumentale mesurait 1,70 m, 1,80 m de hauteur. Je reviens sur le dessin d'André du Cerceau. Elle se trouvait ici, à la croisée des deux allées de la cour d'honneur, enfin de la cour centrale. En 1604, Nicolas de Neuville, seigneur de Villeroy, devint également propriétaire du château de Bury. Le château de Villeroy se trouve à Mennecy, dans l'Essonne. Le château de Bury fut acquis avec toutes les richesses d'art qu'il contenait, et en particulier le bronze de Michel-Ange. Le fils de Nicolas déplaça la statue dans son château de Villeroy. On a donc pu suivre le bronze jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À partir de cette date, on perd sa trace. Le bronze de Michel-Ange a disparu. L'existence de ce bronze est attestée dans les écrits de l'époque. Un dessin de Michel-Ange au Louvre, qui est à gauche, et une statuette de Michel-Ange en bronze, qui est au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui est sur l'image à droite, peuvent nous donner une idée de cette statue très différente du célèbre marbre de Florence. Peut-être un jour sera-t-il redécouvert. Il est quand même peu probable qu'il ait été fondu, étant donné l'importance de cette sculpture et surtout de son auteur. À partir de 1641, le château de Bury, laissé à l'abandon, est alors progressivement démantelé et sert de carrière de pierre pour les habitants des environs. Des quatre tours qui encadraient la cour d'honneur, il n'en reste plus que deux en ruine. Le bronze se trouvait ici à la croisée des deux allées. Nous arrivons au château de Fontainebleau. Quelques mots sur l'architecture générale. Alors, sur la disposition, on ne va s'occuper que de la partie Renaissance, c'est-à-dire contemporaine de François Ier et d'Henri II. Les travaux ultérieurs ne sont pas dans le cadre de notre intervention, disons. Avec la flèche, ça va être plus simple. La partie centrale, c'est cette cour qu'on appelle la cour ovale. Ici se trouve le donjon médiéval qui a été conservé lors de la reconstruction du château. On reviendra en détail sur cela, c'est pour vous donner une idée de l'aspect général de la situation actuelle. Ici se trouvait une abbaye. François Ier a fait construire une galerie. Ici, maintenant, cette galerie est beaucoup plus large qu'elle n'était à la Renaissance. Elle a été doublée au XVIIIe siècle. Il y avait juste une galerie de 6 mètres de large, que l'on verra tout à l'heure, galerie François Ier, qui lui permettait d'accéder à l'abbaye qui était là. Mais plus tard, il avait rasé l'abbaye pour construire cette cour des communs, en quelque sorte, une cour de service, avec cette... Ce grand bâtiment en façade et avec la principale chapelle du château. Une première aile ici, qu'on appelle l'aile des ministres. Celle-ci, qui a été détruite par Napoléon Ier, qui a voulu que cette cour soit l'entrée principale du château. C'était la cour de l'aile de Ferrare, et ici il y avait l'aile contenant la galerie d'Ulys, qui était célébrissime à l'époque et qui a été détruite par Louis XV. Cette aile a été construite à l'époque d'Henri II. L'entrée principale du château à l'époque de François Ier était ici, qu'on appelle la Porte Dorée, à laquelle on accédait par une grande allée bordée de tilleuls qui menait ici. Voilà. Les autres bâtiments autour ont été construits ultérieurement, donc je peux en parler. Je reviens sur une vue plus verticale, donc la cour ovale, le donjon ici, une partie de cette grande aile, là, c'était la galerie François Ier, un bâtiment, l'aile des ministres, l'aile de Ferrare, l'aile de la galerie d'Ulysse qui a été détruite. Et ce pavillon à l'époque d'Henri II qui s'appelle l'aile de la belle cheminée, parce qu'il y avait une cheminée monumentale, avec un très beau bassin, le bassin des carpes ici devant, et une fontaine dont on reparlera, parce que là encore, il y a une histoire intéressante. Le château de Fontainebleau est celui que je préfère. Ce château est un livre ouvert de l'évolution de l'architecture française depuis l'époque médiévale, je vous parle du donjon, jusqu'au Second Empire. Napoléon III a aimé beaucoup venir à Fontainebleau et surtout à l'extrémité de cette aile, maintenant qu'il est Louis XV, il y a un magnifique théâtre conservé dans son état d'origine et c'est une pure merveille qui a été restaurée récemment. Exceptionnel, unique en France. De plus, il est entièrement et somptueusement meublé. Les deux souverains qui ont le plus marqué le château sont François Ier et Napoléon Ier. C'est à l'époque de la Renaissance qu'il a connu ses transformations les plus spectaculaires. Nous n'avons étudié que les réalisations de François Ier et d'Henri II en insistant sur les décors peints. Je ne parlerai pas de la chapelle Saint-Saturnin, petite chapelle qui se trouve ici, à deux niveaux. Et je ne vous parlerai pas non plus de la chapelle de la Trinité, qui est ici, qui ont été construites par François Ier, mais la majeure partie de la décoration intérieure date du XVIIe. Je ne vous parlerai pas non plus des décors disparus. L'aile Louis XV, construite pour loger la cour, est venue remplacer une aile du XVIe siècle semblable à l'aile des ministres. Elle était ici. L'aile des ministres là, voilà. Pourtant, dans cette aile, avant sa destruction définitive par Louis XV en 1739, se trouvait la célèbre Galerie du Lys qui était ornée d'un exceptionnel ensemble de 58 fresques relatant les aventures du Lys d'après des dessins du Primatis. Pérouse de Monclos, historien de l'architecture qui connaît bien Fontainebleau, a écrit « À Louis XV revient la palme réservée aux plus dignes descendants des rois vandales. » On se lasserait à dénombrer les destructions commandées par ce roi à Fontainebleau. Le pire fut la démolition qui indigna les contemporains de la Galerie du Lys, magnifique ensemble peint par Niccolo dell'Abate d'après des dessins du Primatis. Nous connaissons ces peintures par des gravures de Théodore van Tulden, dont vous avez un exemple sous les yeux. C'est le moment de l'Odyssée où Ulysse et ses compagnons réussissent à s'enfuir de l'antre du cyclope Polyphème après l'avoir aveuglé. Ce dernier arrache de la falaise un rocher qu'il s'apprête à lancer de rage sur le navire d'Ulysse. Vous avez sous les yeux donc le château médiéval et le couvent. L'origine du château de Fontainebleau est très ancienne. Au XIIe siècle, un château fort y était construit sans doute par Louis VI le Gros. Ce fut l'une des résidences préférées de Saint-Louis. En 1259, ce roi, Saint-Louis, fonda à l'ouest du château un couvent-hôpital qui est indiqué sous le nom d'abbaye, dont le fonctionnement avait été confié à l'ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs, qu'on appelle aussi l'ordre des Trinitaires. Cet ordre était chargé du rachat des captifs faits par les morts. Alors, en pointillé, ce qu'on n'avait pas vu l'année dernière, il y a l'état du château actuel. Ça, c'est le château médiéval, donc connu à l'époque de Saint-Louis, et qu'a connu aussi François Ier, tout à fait au début. Et puis, il y avait cette abbaye, avec une abbaye de style gothique, avec une abbatiale gothique à côté. Et on devine l'évolution autour de ce château médiéval du château actuel. Mais en fait, ce château médiéval a été rasé. On va raconter l'histoire. Après son retour de captivité en Espagne, en 1526, François Ier est chassé dans la forêt de Fontainebleau, très giboyeuse. Il n'est disposé que d'un modeste château féodal délabré. Le roi fit raser le château médiéval dont il conserva symboliquement le donjon et fit édifier de nouveaux bâtiments sur les fondations du vieux château autour de la cour ovale, de sorte que son château sera bâti sans régularité, sans symétrie, à la différence des châteaux contemporains, comme le château de Madrid, qui, comme son nom l'indique ou ne l'indique pas, est édifié par François Ier dans le bois de Boulogne. Mais ce château est disparu. Donc on voit en rouge les constructions de François Ier. Ici, le donjon médiéval qui a été conservé. Il a redressé un petit peu les constructions. En gros, le château de François Ier, encore une fois, utilise les fondations du château médiéval au départ. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, il n'y a que la galerie de François Ier qui relie les appartements du roi à ce qui était l'abbaye qui était ici. Hein, il voulait cette galerie pour aller dans un espace couvert prier dans l'abbatiale. Mais finalement, il fait raser l'abbaye, édifier cette aile, l'aile des ministres, il fait édifier l'aile de Ferrare, il fait édifier l'aile de la galerie du Lys en bas. Voilà. Et donc, on voit les constructions de Louis XV. Ici, c'est l'aile de la belle cheminée par Henri II. Voilà, encore une maquette où on voit vraiment l'état à l'époque de François Ier. Hein, on voit que les travaux pour la chapelle de la Trinité ne sont pas achevés. Ici, l'aile d'Henri II n'est pas encore construite, mais il y a un soubassement. Et là, la salle de bal est en cours de travaux, et elle sera terminée par Henri II encore une fois. Donc c'est vraiment le château de François Ier avec tous ces éléments qui sont présentés là. Et donc voici la partie la plus ancienne, le donjon médiéval conservé qui est à une extrémité de la tour ovale. Donc à partir de 1528, je reviens un peu en arrière, il entreprit d'importants travaux confiés en grande partie à un architecte parisien, Gilles Le Breton. Le roi fit raser le château médiéval, je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. Bon, je me répète. À Fontainebleau, malgré l'évolution du château, la cour ovale demeura la cour d'honneur et la porte dorée construite en 1528 devint l'entrée principale. Elle est précédée d'une longue avenue plantée de tilleuls. Cette porte monumentale se distingue par un haut toit en pavillon, par son ornementation de pilastres et de frontons triangulaires et par ses trois grandes loggias superposées. Cette nouveauté est inspirée des modèles de la Renaissance italienne, comme le Castel Nuovo à Naples, la façade du palais ducal d'Urbino ou même l'entrée du château de Gaillon que nous avons vu tout à l'heure. Nous parlerons plus tard des décors peints du primatis qui ornent l'entrée du rez-de-chaussée. Le roi disposait d'une chambre traditionnellement établie dans le donjon, d'une garde-robe, d'une salle où il mangeait et d'un cabinet de retraite. À l'ouest du château se trouvait l'abbaye des Trinitaires fondée par Saint-Louis. Pour assister quotidiennement aux offices qui se déroulaient dans la chapelle de l'abbaye tout en restant à l'abri, le roi demanda la construction d'une galerie longue de 60 mètres par 6 de large. La construction de la galerie qui porte son nom commença au printemps 1528. On peut estimer qu'elle fut achevée juste avant la visite de Charles Quint entre le 24 et le 30 décembre 1539, François Ier reçoit somptueusement le roi d'Espagne à Fontainebleau et lui fait visiter son palais et la galerie. Vous avez sous les yeux l'aile des ministres. Un peu plus tard, le roi rachètera aux Trinitaires les terrains de l'abbaye pour faire construire une suite de bâtiments délimitant une grande cour de service appelée la cour du Cheval Blanc. À l'est, pour édifier une aile de son palais, le roi fera détruire l'abbaye gothique, fera construire la chapelle de la Trinité, l'aile des ministres au nord, l'aile de la galerie du Lys au sud, et l'aile de Ferrare fermer la cour à l'ouest. En 1810, cette troisième aile a été détruite et remplacée par une grille d'entrée monumentale. Influencé par les merveilles architecturales et artistiques de la péninsule italienne, le roi commandite un chantier de presque 20 années. Il engage deux grands maîtres italiens pour orner les intérieurs de sa demeure, le Rosso, arrivé à Fontainebleau en 1530, et le Primatiste, arrivé en 1532. Tous deux sont à l'origine de ce qu'on a appelé la première école de Fontainebleau. Un troisième artiste, Niccolò dell'Abate, sera invité en France en 1552 par Henri II pour seconder le Primatiste. Mais si ce sont des Italiens qui, à Fontainebleau, jouent les principaux rôles, ils sont aidés par des peintres français et nordiques qui, eux aussi, ont subi l'influence maniériste. Cette équipe de décorateurs a contribué à transformer un style qui fut créé par des Italiens, mais qui va devenir propre à la Renaissance française. L'architecture extérieure de l'aile François Ier est sobre. Elle se développe sur trois niveaux. Au niveau du rez-de-chaussée se trouvait l'appartement des bains, décoré par le Primatiste, derrière les arcades. Au premier étage, la célèbre galerie de François Ier, que nous allons parcourir tout à l'heure, décorée par le Rosso, dont on voit une alternance de fenêtres et de panneaux muraux. Derrière chaque mur plein, ici, à l'intérieur, il y a une fresque monumentale avec des décorations extrêmement raffinées. Au troisième niveau se trouvait la bibliothèque de François Ier, riche d'environ 2700 ouvrages qui permettaient d'embrasser toutes les connaissances de l'époque. C'est Guillaume Budet, célèbre humaniste et traducteur des textes anciens, qui gérait les collections. Revenons au rez-de-chaussée où se trouvait l'appartement des bains qui a été détruit au XVIIe. Il était consacré aux soins et aux plaisirs du corps. François Ier avait fait construire dans la tradition des thermes romains un ensemble de 7 salles, des bains avec étuve, une pièce abritant une baignoire, une salle avec un bassin au centre, entourée de 4 chambres de repos. Dans ces lieux étaient exposés des tableaux de chevalet de Léonard de Vinci, comme la Joconde et la Vierge au Rocher, mais aussi 4 œuvres de Raphaël. Vous avez la Vierge au Rocher sous les yeux. Non, pas encore. La voilà. Quatre œuvres de Raphaël, 2 Andrea del Sarto, une Madeleine de Titien et 2 Perugino. Ces appartements des bains permettaient la satisfaction des sens et la jouissance du raffinement esthétique. Une remarque cependant, ce lieu envahi de vapeur d'eau n'était peut-être sans doute pas le meilleur endroit pour conserver des peintures. François Ier souhaitait faire de Fontainebleau un foyer de l'art de la Renaissance. Il collectionne les œuvres d'art, les objets d'art, passa de nombreuses commandes aux artistes, fit venir d'Italie des antiques, etc. Arrêtons-nous un instant sur les collections royales. Il avait hérité de tableaux ayant appartenu à Louis XI, comme la Belle Ferronnière de Léonard de Vinci, qui est au Louvre. Et pour se faire remarquer par le roi, le Rosso s'était arrangé pour lui faire parvenir une toile importante, Moïse défendant les filles de Jéthro, datée de 1523, que vous avez sous les yeux. Mais il semblerait que l'original offert au roi ait disparu. La toile du musée des Offices, que vous avez sous les yeux, serait une copie. Encore une œuvre disparue, ce n'est pas la seule. Dans cette toile de Lemonnier, datée du XIXe, François Ier recevant dans la salle de bal à Fontainebleau la grande sainte famille de Raphaël. Voyez le tableau, et voici le tableau lui-même qui est à gauche. L'autre tableau est également de Raphaël. Raphaël. Le roi avait aussi reçu de nombreux cadeaux diplomatiques. Donc 2 œuvres de Raphaël, la Grande Sainte Famille, un cadeau du pape Léon X, et un portrait de la vie sereine de Naples, Doña Isabelle de Requesens, par Raphaël. C'est un cadeau personnel du cardinal Bibbiena, qui est également au Louvre. Vers 1540, le cardinal Ippolito d'Este lui offre une copie en bronze du Spinario, l'original en bronze du tireur d'épines. Spinario veut dire tireur d'épines. Hein. Le jeune garçon a une épine plantée dans le pied et il la retire. L'original en bronze est au musée du Capitole. Le Spinario est une des œuvres les plus célèbres de l'Antiquité, a été copié avec de légères variantes par de très nombreux artistes à travers les siècles. Vers 1540, sur l'ordre du roi, le primatiste part au Vatican pour faire un moulage des antiques les plus célèbres de la galerie du Belvédère afin d'en fondre des bronzes. Un atelier de fonderie installé au château de Fontainebleau dans la cour du Cheval Blanc permit de mener à bien le travail de fonte sous la direction de Vignol. Plus tard, ces bronzes orneront les niches de l'aile de la grande cheminée. Alors nous sommes ici dans la galerie des Serres, qui ne date pas de François Ier, qui a été construit à l'époque d'Henri IV. Et dans cette galerie sont conservés les bronzes originaux. Ils ont été mis à l'abri, eux aussi, certains ont survécu et d'autres non. On peut y voir 5 des 10 bronzes fondus par le primatiste. La Vénus de Cnide, je n'ai pas trouvé de photo. L'Apollon du Belvédère, l'Hercule Commode, à droite. Le Laocoon et ses enfants, et Ariane endormie. Les 5 autres bronzes fondus par le primatiste ont été envoyés à la fonte en 1792. Il y avait le Tibre, 2 sphinges et 2 satyres que nous verrons plus tard. Ou plutôt, des copies. De nos jours, on aurait peut-être tendance à négliger ces bronzes qui ne sont que des copies, mais ils datent du XVIe siècle. Ils ont une histoire prestigieuse. De plus, à l'époque, François Ier était le premier souverain à avoir une telle collection de bronzes faits à partir d'antiques célèbres. Fontainebleau était parfois comparé à une nouvelle Rome, et son école était renommée dans toute l'Europe de l'Ouest. Le roi possédait aussi 2 œuvres de Michel-Ange, une peinture représentant l'Eda et le Cygne, œuvre disparue que l'on connaît par des copies. La seconde est une sculpture exceptionnelle, offerte au roi en 1529 par le marchand de tissus et banquier Filippo Strozzi, un Hercule de marbre exécuté vers 1494 par Michel-Ange, une œuvre de jeunesse de 2,52 m de haut. Dans la cour de la fontaine, le roi avait fait élever par le primatiste une fontaine monumentale, seule habilité à fournir l'eau de la table du roi en raison de sa pureté. L'eau jaillissait d'un amas de rochers qui était surmonté d'une sorte de petit temple. La statue d'Hercule fut placée au-dessus du temple. Plus tard, Henri IV la fut placée au centre du jardin de l'étang. Alors voici ce petit temple avec la statue d'Hercule, toujours avec un dessin d'André du Cerceau, qui est une source incomparable pour connaître l'état des châteaux au XVIe siècle. Et ce mauvais dessin en haut à gauche, je ne sais même pas si c'est un dessin, peut-être une gravure, enfin voilà, c'est le seul document qu'on trouve, représentant cet Hercule disparu. La sculpture, alors je vous montre encore un document, effectivement, Henri IV a fait édifier ce petit jardin sur carré, en mordant sur le bassin des Carpes qui est là, et à la croisée des 2 chemins de ce jardin qu'il a fait construire, il y avait l'Hercule. La sculpture a disparu quand le jardin carré que vous avez sous les yeux, a été supprimé vers 1718. On perd la trace de la sculpture. Pour certains historiens, il est difficile de croire que même en mauvais état, on ait pu jeter une œuvre en marbre de Michel-Ange. Elle a été remplacée au XIXe siècle par une statue d'Ulysse totalement dépourvue d'intérêt que l'on peut voir actuellement. Je vous montre aussi deux peintures de la première école de Fontainebleau, mais réalisées par des peintres maniéristes français. La première, très célèbre, est peut-être le premier nu de l'histoire de la peinture française, Eva Prima Pandora par Jean Cousin de 1550. La seconde est une femme à sa toilette par un peintre anonyme, mais parfait exemple du style de la première école de Fontainebleau, très maniériste. Nous avons vu que l'architecture extérieure de la galerie François Ier est sobre. En revanche, le décor intérieur de la galerie qui en occupe le premier étage sera d'une conception et d'une richesse extraordinaires. Cette galerie était un lieu privé, réservé à la déambulation du souverain. Le roi en conservait la clé autour du cou et il en réservait la visite à ses hôtes de marque. Greffé sur le donjon, je vous rappelle du plan, la galerie était le prolongement de ses appartements et était alors éclairée par deux rangées de 8 fenêtres vers le nord et vers le sud. Ce n'est qu'en 1786, lors du doublement de la galerie pour y déployer de nouveaux appartements, que les fenêtres du côté nord ont été obturées. Donc, à droite c'est le sud, à gauche c'est le nord. Et on voit la lumière qui entre par les fenêtres orientées au sud. Les fenêtres du côté nord sont des facsimilés, il y a une fausse lumière parce que d'autres appartements ont été construits contre la galerie de François Ier au XVIIIe siècle. François Ier confia la décoration de la galerie à Giovanni Battista di Jacopo, surnommé Rosso Fiorentino, 1494-1540, parce qu'il était roux, Rosso, et originaire de Florence, Fiorentino. Arrivé en 1530 à Fontainebleau, cet artiste est un admirateur du Michel-Ange. Entouré d'une équipe de peintres, de sculpteurs français, italiens et flamands, il développe un ensemble décoratif associant la peinture à fresque et la sculpture en stuc, et cet ensemble se déploie au-dessus d'un lambris de boiseries. Vous voyez qu'en bas, c'est les boiseries, toutes décorées de motifs, tous différents encore une fois. De chaque côté de la galerie, 7 grandes peintures à fresque alternent avec 8 fenêtres. Les 14 grandes fresques sont encadrées par des panneaux peints, soit par de grands motifs en stuc. Les encadrements en stuc étaient exécutés avant le travail de peinture. Le Rosso semble être le premier artiste à avoir utilisé le stuc comme matière pour réaliser de véritables sculptures. Par la richesse de leur invention et la qualité de leur exécution, les stucs prennent autant d'importance que les peintures. Les hauts-reliefs et ronds de bosse ne sont pas des moulages en plâtre, ils sont modelés sur place autour d'un noyau dur dans une pâte à base de plâtre et de poudre de marbre qui, durcie après séchage, peut être reprise au ciseau par le sculpteur. Le ciseau, c'est l'outil principal du sculpteur. Les références au travail de Michel-Ange sont nombreuses, comme les personnages nus et les putti, qui soutiennent les guirlandes de fruits et autres décorations florales, mais le Rosso associe fresques et stucs dans un ensemble décoratif cohérent, ce qui en fait une œuvre extrêmement novatrice dans les années 1530 et qui caractérise l'école de Fontainebleau, une version française du maniérisme italien. Les murs de la galerie sont ornés d'un haut lambris de boiseries sculptées en chêne et en noyer sur 2,25 m de hauteur. Un plafond à petits caissons ferme l'écrin de cet ensemble. Ces menuiseries ont été réalisés par Francesco Sibec da Carpi en 1539. On retrouve partout le F, monogramme du roi. Les salamandres ornant les lambris en noyer de la galerie sont une référence au roi. Chaque fresque est surmontée d'une salamandre. Elles sont toutes différentes. Aussi bien les fresques, les bas-reliefs, les salamandres qui sont sur les boiseries à la base du mur, que les salamandres que l'on va voir au-dessus des fresques, ces salamandres sont toutes dans des positions différentes. Voici le plan de la galerie. Dans la galerie du Lys, le programme iconographique était clairement identifiable. Rien de tel dans la galerie François Ier, où se déroule une suite de grandes fresques qui non seulement ne racontent pas les épisodes d'une même histoire, mais conservent caché le lien qui les unit, si tant est qu'il y en ait un. Ce cycle d'une grande complexité a sans doute été imaginé par un lettré nourri des auteurs de l'Antiquité appartenant à l'entourage du souverain, tel Lazare de Baïf ou Guillaume Budé. Le programme iconographique de la galerie n'a pas livré tous ses secrets. Aucun texte de l'époque ne vient en éclairer la symbolique. S'il y eut un texte écrit, il n'a pas encore été identifié. La plupart des fresques représentent des scènes allégoriques de la mythologie gréco-romaine. Leurs sens ont toujours été sujets à discussion. De nombreuses explications ont été avancées au cours des siècles. Déjà à l'époque de leur réalisation, la sœur du roi, Marguerite d'Angoulême, admettait n'y rien comprendre. La galerie est une énigme et seul le monarque en avait la clé, au propre comme au figuré. Déjà, l'interprétation des scènes principales présente de grandes difficultés et paraît parfois hasardeuse. Mais certains personnages qui encadrent les panneaux principaux ne sont pas tous clairement identifiés. À cela s'ajoutent les grands personnages en stuc, les médaillons sculptés en bas-relief, etc. Tous les éléments sculptés et peints s'ajoutent, se complètent et constituent visiblement un ensemble complet, cohérent, dont la signification nous échappe encore en grande partie. Les premières explications furent données par le père Pierre Dan, supérieur du couvent, grâce à son livre publié en 1642. D'autres, après lui, ont tenté de les compléter. Cependant, de manière générale, les fresques sont une illustration du bon gouvernement du roi, qui évite les dangers et recherche la paix et la concorde. Selon certains spécialistes, le programme iconographique doit se lire d'est en ouest, c'est-à-dire de la chambre du roi vers la chapelle. La chambre du roi, les appartements du roi étaient ici. Et certains pensent qu'il voulait lire dans ce sens-là, vous voyez les numéros. Mais de nos jours, la visite se fait toujours d'ouest en est. On arrive par ici, on va dans ce sens-là quand on fait la visite. C'est donc cet ordre que je suivrai. Les titres attribués aux différentes fresques sont des propositions plus ou moins récentes et les commentaires que je vais faire sont une synthèse de plusieurs sources. Alors on va commencer, on va entrer dans la galerie et on va commencer à chaque fois par le nord. Enfin, le nord, la fresque du sud et on avancerait ici progressivement de travée en travée en commençant à chaque fois par la fresque située au nord. Alors à chaque fois, je vous montre une vue d'ensemble, parce que c'est très très important, et ensuite, la vue de la fresque proprement dite. On fera éventuellement des allers-retours. Vous voyez que la fresque centrale est ici, la salamandre, vous verrez que chaque salamandre, si vous faites attention, est différente de fresque en fresque. Sous la fresque, il y a souvent un petit bas-relief. À gauche, il y a tantôt comme ici, un grand travail en stuc, que l'on retrouve ici à droite, avec d'autres petits éléments qui peuvent être en stuc ou peints. Ici, ce sont des petits éléments peints. Là aussi, il y a des peintures, je vous en parlerai, elles ne sont pas identifiées. Hein. Tout n'est pas identifié. Et donc, tantôt, la fresque principale est entourée de motifs en stuc imposants, comme ici. Tantôt, ce seront des motifs peints, en alternance. La première fresque s'intitule Le Sacrifice. Ces fresques ont été restaurées en 1972. Au centre, auprès d'un autel sacrificiel en flammes, se tient un vieillard vêtu de noir et coiffé d'une mitre, une sorte de grand prêtre. On voit l'autel avec le grand prêtre là, à la barbe blanche. Trois jeunes gens s'avancent, porteurs d'urnes de vin. Ici, il y a les urnes, 1, 2, 3. Au premier plan, des femmes et des petits-enfants. Voilà. Au pied du grand prêtre, une jeune mère qui contemple son nourrisson évoque une nativité, celle-ci. Il pourrait s'agir d'une cérémonie comme celle qui, dans l'Antiquité, était suscitée par une naissance. Est-ce que ce ne serait pas la représentation symbolique de la naissance du roi François Ier du nom, un nom qu'il tient de François de Paule? Le grand prêtre ne pourrait-il figurer ce saint thaumaturge qui avait la réputation de favoriser la venue au monde des enfants? À la toute jeune Louise de Savoie, mère de François Ier, déjà inquiète de ne pas être mère, il avait prédit non seulement qu'un fils lui naîtrait, mais que ce fils connaîtrait un destin de roi, alors improbable, car il n'était pas dauphin. Les compositions du Rousseau sont très animées, on y voit de nombreux personnages en mouvement, et l'atmosphère est souvent dramatique. J'en viens pour dire un mot sur les stucs. Les stucs autour de la fresque représentent le sacrifice d'un bélier à gauche et celui d'un taureau à droite, toujours dans la thématique religieuse exprimée par la fresque centrale. Je vous rappelle que ces stucs ne sont pas des moulages, encore une fois, c'est des blocs de stucs et de plâtre et de poudre marbre, et les sculpteurs ont taillé vraiment dans la masse. Hein. Ce sont des blocs, finalement. L'ignorance chassée, on est dans la fresque sud, la scène se déroule sur des nuées. En haut, à droite, le roi, en empereur romain, couronné de laurier, a atteint la porte du temple de Jupiter, l'épée à la main droite et un livre sous le bras gauche. Alors, vu l'ensemble, encore une fois, avec un faune et une faunesse. Et voici le détail. On voit le roi ici avec son épée dans la main droite. La source de lumière provient de la porte du temple. François Ier s'illustre dans l'art de la guerre par l'épée. Il règne aussi par les arts de la paix, ami de l'étude et de la sagesse, symbolisé par le livre. Il a laissé derrière lui toutes sortes de personnages aux yeux bandés, les uns prostrés, les autres au corps contorsionné. Ces personnages représentent l'ignorance qui est chassée du monde. Cette fresque valorise le roi vertueux qui contribue à chasser l'ignorance en favorisant les valeurs humanistes de l'éducation et de la connaissance pendant que se perdent ceux qui veulent rester dans l'ignorance. Les stucs sont en rapport avec les fresques qui les encadrent, ainsi les deux satyres mâles et femelles et leurs enfants symbolisent probablement les vices, la luxure, dans lesquelles tombent les ignorants, l'ignorance entraînant le vice. Le Rousseau et le Prématis répandent dans l'ensemble décoratif le motif en forme de cuir découpé avec des enroulements. Ce motif fera école et sera repris de nombreuses fois. Il s'agit de ce motif-là que l'on retrouve dans de très nombreux panneaux décoratifs de l'année, mais que l'on retrouve dans d'autres châteaux. L'éléphant fleur-de-lysée, nous sommes au nord. Vous voyez que de chaque côté, ce ne sont plus des stucs, mais des panneaux peints. Hein. Cette Cette fresque est une des plus célèbres du château de Fontainebleau. Le personnage principal, un éléphant, est campé au milieu d'un lieu architecturé. Il fait l'objet de l'attention d'une foule pressée à un balcon, là-haut, à gauche. L'éléphant fleur-de-lysé représente le roi François Ier. C'est un symbole de force, de sagacité et de pérennité de la royauté. Les indices permettent de le reconnaître. La salamandre sur le cuir découpé ornant le front de l'éléphant, l'hélice et le chiffre royal ornant le caparaçon. Voilà, la salamandre ici, le F et l'hélice ici. À ses pieds, une cigogne symboliserait l'amour filial. Elle représente la mère du roi Louise de Savoie. Autour de lui, on retrouve les trois fils de Saturne représentant les éléments. Jupiter, en vert avec le foudre, ici. Il est évident que quand on voit Jupiter en empereur romain, il est probable que ce soit aussi une représentation de François Ier. Neptune, en rouge avec son trident à ses pieds. Et en jaune à droite, Pluton accompagné de Cerbère, le chien à trois têtes, qui symbolise la Terre. Alors on a le ciel ou l'air, enfin l'air ici, l'eau et la Terre, symbolisée par ces trois dieux romains. Ces trois personnages font référence aux trois espaces sur lesquels règne le roi, l'air, l'eau et la Terre. À gauche de la fresque, on peut distinguer un personnage. Ici, celui-ci. En chemise verte et à la barbe rousse, c'est probablement un portrait de Giovanni Battista di Jacopo, surnommé Rosso Fiorentino. Les fresques. Encadrant, le tableau principal met en scène des enlèvements mythologiques, des enlèvements de mortels avec des dieux métamorphosés en animaux symbolisent la bestialité qui tranche avec le roi sage et vertueux. À gauche, l'enlèvement d'Europe. J'aurais pu vous le montrer là aussi, voilà. Par Jupiter changé en taureau, et à droite, l'enlèvement de Philyre par Saturne, déguisé en cheval. Je vous montre un autre détail d'Europe aussi, avec ces adolescents nus qui rappellent tout à fait les œuvres de Michel-Ange. Même ici, la musculature est très présente. Enfin bon, voilà. Sous la fresque de l'éléphant, un cartouche de stuc que vous avez sous les yeux représente Alexandre tranchant le nœud gordien. Je ne vous les montrerai pas tous, mais là, celui-là est bien identifié. Fresque suivante, encadrée de peinture, non pas de, enfin quelques éléments en stuc, mais les panneaux principaux sont en peinture. C'est l'unité de l'État. Le décor est celui d'une cité antique. Au centre, le roi est très reconnaissable. Revêtu d'une cuirasse romaine couronnée de lauriers, c'est un nouveau César triomphant. Il tient dans sa main gauche un fruit qui est une grenade, traditionnel symbole de concorde de par ses graines multiples resserrées sous une même écorce. Autour de lui se groupent des personnages diversement vêtus, soldats, bourgeois, juristes, philosophes, paysans. La diversité des classes sociales représentées dans son entourage serait une référence au caractère universel de son gouvernement, s'appliquant à tous ses sujets. Le roi est défenseur de l'unité de l'État et de toutes les corporations du royaume. Cette scène pourrait aussi être une allusion à l'unification historique de la Gaule par César, ou par Vercingétorix. Le roi et son interlocuteur ont des gestes très expressifs. Ils semblent engagés dans une discussion animée. Ce pourrait être un philosophe, un théoricien de l'art de gouverner, qui expose ses idées au roi. De part et d'autre de la fresque, les deux compartiments oblongs représentent deux couples enlacés, répétant le principe de l'union et de la concorde. Dans le cartouche inférieur, on voit un messager venant annoncer à César la révolte des Gaules unifiée par Vercingétorix. C'est sur l'image précédente. L'incendie ou les jumeaux de Catane. À nouveau, on voit des grandes compositions en stuc. Au premier plan, deux jeunes gens portent leurs vieux parents sur leur dos. Quatre enfants les escortent. Il y en a un autre là. L'un transportant son petit chien. À droite. À l'arrière-plan, une ville en flammes brûle, des habitants sont prostrés, d'autres fuient. Cette fresque est interprétée comme l'histoire des deux jumeaux, Amphinomus et Anapias, qui sauvèrent leurs parents lors de l'incendie de Catane à la suite de l'éruption de l'Etna. Cela pourrait illustrer la gratitude et le dévouement que l'on doit vouer à ses parents. Ce serait donc le symbole de la piété filiale, à mettre en parallèle avec le dévouement des deux fils du roi, le dauphin François et Henri, qui furent envoyés à Madrid en 1526 et détenus en otage pour permettre la libération de leur père. Les stucs représentent à gauche un homme barbu, vêtu de vrai, et à droite un jeune homme portant un pagne. Ces deux personnages évoquent l'amour filial. Je vous montre le retour en arrière, voilà le jeune homme au pagne. Cléobis et Biton. À nouveau, on voit de chaque côté des médaillons en bas-relief, en stuc. Mais il y a aussi d'autres éléments peints partout, hein, c'est d'une complexité ahurissante. Et tout ça a certainement, ou avait certainement, du sens. Tiré de l'œuvre d'Ovide, l'art d'aimer, la mythologie grecque compte comment Sidype, grande prêtresse, doit se rendre au temple d'Héra dans un char tiré par des taureaux blancs. Or, une épidémie les a frappés. Alors, les deux fils de la grande prêtresse, Cléobis et Biton, les remplacent. Sidype demande à la déesse de donner le meilleur pour ses fils. Après les cérémonies et un banquet, Cléobis et Biton s'endormirent dans le temple, mais ne se réveillèrent jamais. Héra venait de leur donner le meilleur, pour un mortel, la mort. Cette fresque symboliserait l'amour de François Ier et de sa sœur Marguerite d'Angoulême pour leur mère Louise de Savoie. Le roi vénérait sa mère. C'est la même symbolique que pour les jumeaux de Catane. C'est la pietas antique, la gratitude que l'on doit vouer aux parents et ancêtres. Les deux fresques illustrent le même thème, la piété filiale. Des bas-reliefs en stuc représentent, je vais vous les montrer en plus gros quand même, voilà, j'en montre qu'un, représente à gauche Sidype au milieu des pestiférés, et à droite, c'est la mort de Cléobis et Biton. Toutes ces scènes symboliseraient l'amour de François Ier et de Marguerite d'Angoulême pour leur mère Louise de Savoie. À l'origine, au centre, au milieu de la galerie de François Ier, il y avait deux petits cabinets, deux proéminences au nord et au sud, contenant des décors. Ils occupaient la partie centrale de la galerie. Les cabinets ont tous deux disparu. Celui au sud, lors de la construction de la terrasse au XVIe siècle, celui au nord, lors du doublement de la galerie en 1786. La galerie centrale, maintenant, est plutôt vouée aux amours du dieu des dieux et donc à des images de volupté. La nef de Fontainebleau, sur le côté nord. Le cabinet nord était orné donc d'une fresque du Prématis dans ce petit cabinet qui a disparu, représentant Sémélé, une prêtresse dont le dieu tomba amoureux. Lors du doublement de la galerie, la fresque fut détruite. Au XIXe, on pensa remplacer l'image de Sémélé par la légende formée par le nom de Fontainebleau, la fontaine découverte par un chien de chasse nommé Bliot. Ce sujet offrait la possibilité de représenter une figure féminine symbolisant la source dans une pose comparable à celle de Danaé, placée en face. La nymphe fut dessinée, celle que vous avez sous les yeux, fut dessinée par Louis-Charles-Auguste Couder en 1834, d'après une gravure de Pierre Milan datée de 1554, faite d'après un dessin du Rosso. Voici la gravure donc représentant un dessin du Rosso, dont s'est inspiré Couder pour faire cette peinture que l'on peut voir actuellement. Je vous rappelle que Cellini s'est inspiré de cette fresque-là du Rosso pour réaliser sa nymphe de Fontainebleau en front. Enfin, il a utilisé le document le plus ancien, évidemment. Pour réaliser sa nymphe de Fontainebleau en bronze destinée à orner la porte dorée. Du côté sud, Danaé, visité par Zeus, dissimulé en pluie d'or par le Prématis. Actuellement, toutes les fresques de la galerie sont l'œuvre du Rosso, à l'exception de cette Danaé, œuvre du Prématis. Danaé, enfermée dans une tour, est visitée par Zeus, qui a pris l'apparence d'une pluie d'or. Persée sera le fruit de leur union. Cette œuvre est inspirée d'un tableau de Michel-Ange intitulé L'Eda et le Cygne que possédait François Ier. Cette peinture a disparu, mais elle est connue par des copies. Les stucs réalisés par le Rosso représentent des figures féminines portant des corbeilles de fruits. Cinquième travée dédiée à la mort. Au nord, le naufrage ou la vengeance de Nauplius. Cette fresque qui est la plus sombre, au retour du siège de Troie, les navires grecs tombent dans un piège tendu par Nauplius qui voulait venger la mort de son fils Palamède, injustement mis à mort par Ulysse. Il a fait allumer un fanal sur les récifs de la côte d'Eubée afin de tromper les vaisseaux grecs qui, croyant entrer au port, s'abîment sur les rochers. Les marins se noient et Nauplius et les siens fuient, tuent à coups de rame ceux qui cherchent à atteindre le rivage. Le Rosso a particulièrement réussi cette scène violente. Le personnage central, celui-ci, armé d'une rame, est une variante du Charon de Michel-Ange, la fresque symbolisant alors le batelier des enfers dans l'Empire des Morts. C'est un détail du jugement dernier de la chapelle Sixtine. Cette fresque pourrait être une allusion à la trahison du connétable de Bourbon, cousin du roi, qui passait au service de Charles Quint. Le roi a vécu cette trahison comme un drame. De part et d'autre de la fresque sont disposées des niches vides en stuc. La mort d'Adonis. Au premier plan, le bel Adonis, amant de Vénus, a été blessé à mort par un sanglier. Des amours s'échappent avec ses vêtements. Dans la partie supérieure, il emporte l'armure, le bouclier. Vénus est représentée sur son char au milieu d'une nuée. Elle est accompagnée d'Eros et de la Fortune. Voilà, Vénus ici. Eros et la fortune avec la roue de la fortune. Elle se précipite vers Adonis en s'arrachant les cheveux. Cette composition est fondée sur une grande diagonale qui unit Vénus à Adonis, le ciel et la terre, la vie et la mort, mouvement de chute qui accentue le drame. Curieusement, le groupe d'Adonis et des Amours, traité comme de grands anges, évoque une mise au tombeau. La fresque pourrait être une allusion à la mort du dauphin François, fils aîné de François Ier, brutalement disparu en 1536 à l'âge de 18 ans. Les fresques de l'encadrement illustrent deux couples enlacés. Alors, j'ai un problème là. Voilà, il y a des couples enlacés dans la partie supérieure. Les stucs représentent à gauche Cybèle sur son char avec des lions et une lionne. Et à droite, une scène d'orgie. Alors je vous montre celle de gauche et celle de droite. Une scène d'orgie. L'éducation d'Achille par Chiron. Vous voyez, encore avec des fresques monumentales de chaque côté. C'est le thème de la jeunesse guidé par la force et la sagesse de ses maîtres. Cette fresque fonctionne comme une bande dessinée. Les mêmes personnages jouent plusieurs scènes. Le centaure Chiron, qui est un sage, fait l'éducation du jeune héros grec Achille. Il lui enseigne l'escrime, la natation, l'équitation, le maniement de la lance et des armes. Alors, l'escrime, la natation, le maniement des lances et même une scène de chasse à l'arrière. À l'arrière-plan, sous un péristyle, ici. Achille reçoit sans doute d'autres leçons plus intellectuelles. Cette fresque illustrerait la parfaite éducation de François Ier et ainsi l'éducation idéale, très complète, que doit recevoir un prince humaniste. De part et d'autre, les géants peints, j'en montre un, sont interprétés comme des allégories de la force brute attachée à un arbre. La jeunesse perpétuelle ou perdue. Le sujet de cette fresque est tiré d'une fable de Nicandre de Colophon, écrivain grec du IIe siècle avant Jésus-Christ. Voici le résumé de cette fable. Les hommes avaient trahi le titan Prométhée en indiquant à Zeus où il avait caché le feu. En remerciement, les hommes avaient reçu la jeunesse éternelle. Mais fainéant, stupide et ingrat, il se la servit de porter ce don précieux et ils en chargèrent un âne. Assoiffé, l'animal voulut s'abreuver à un point d'eau placé sous la garde d'un serpent. Celui-ci exigea le fardeau qu'il portait avant de lui permettre de boire. L'âne accepta. Dès lors, les hommes furent condamnés à vivre, tandis que les serpents conservèrent une jeunesse éternelle en bénéficiant d'une mue annuelle. On peut voir en à gauche le dieu Mercure, venant au devant des hommes, annoncer que Zeus accepte de leur donner la jeunesse éternelle. Toujours à gauche, nous voyons un groupe de jeunes gens gracieux. Auxquels s'opposent à droite des vieillards caricaturaux, un peu à la Jérôme Bosch. Au centre, l'âne portant la jeunesse est en train de s'abreuver à une source gardée par un dragon. Le serpent dragon enlève la jeunesse représentée sous les traits d'une jeune fille. Pardon. Si, c'était bon. Cette fresque est peut-être une réflexion mélancolique sur la jeunesse fugace et passagère. Vous voyez le serpent dragon ici et la jeunesse qui se trouvait sur l'âne. Et la conséquence, c'est la vieillesse à droite. Le thème traité ici de la jeunesse sautement perdue entre en opposition avec la fresque précédente placée en vis-à-vis qui illustrait la jeunesse sagement cultivée. Alors sur cette photo est intéressante parce qu'on a une vue à chaque fois de l'ensemble de la composition avec les boiseries dans la partie inférieure, les stucs, les décors, la fresque, le petit panneau ici dont on parlera, etc. C'est... Encore une fois, ici il y a une salamandre, là une autre, et elles sont toutes dans des positions différentes, puis il y a toujours des tas de poutis, d'adolescents, des bas-reliefs ici, enfin, c'est toujours d'une extraordinaire complexité, et c'est super. Donc, l'amour aux Vénus frustrées, c'est le nom de cette fresque qui fonctionne. Est intitulé aussi Vénus tentant de réveiller l'amour endormi, tandis que Mars est parti guerroyer. Des amours volaient dans le ciel. En emportant son bouclier, sa lance et son casque, le casque de Mars. À droite, un livre symbole de la connaissance et des loisirs studio est abandonné. Vénus, prétexte un nu très gracieux, se penche vers amour endormi. Amour est ici. Elle réveille afin de rappeler Mars de la guerre pour qu'il renoue avec l'amour et le savoir. Vénus est-elle frustrée en raison de la guerre, cette guerre qui fait oublier les délices de la vie? Une autre jeune femme se tord les mains. La scène exprimerait la fatalité de la guerre qui vient troubler l'amour et la vie heureuse. Les deux figures féminines sont belles et le décor semble être celui de bains luxueux, comme ceux dont le roi jouissait à Fontainebleau, au rez-de-chaussée de la galerie. Les grandes figures nues illustrent à gauche, les grandes figures nues en stuc du jeune homme à gauche et de la jeune femme à droite qui encadrent la fresque rappellent l'admiration que Rousseau portait à Michel-Ange. Des bas-reliefs illustrent à gauche un combat naval et à droite une batterie de cavalerie. Sous la fresque est installé un tableautin réalisé en 1540 représentant une vue du château avec la galerie François Ier et la porte dorée et avant donc la construction de l'aile de la belle cheminée de la belle cheminée qui est venue se greffer ici plus tard à l'époque d'Henri II. Donc c'est un état du château à cette époque-là, en 1540. Le combat des centaures et des lapithes. C'est la moins lisible des fresques car elle est très usée. Cette fresque illustre le combat des centaures contre les lapithes au cours des noces de Pirithos, roi des lapithes, et d'Hippodamie. Les centaures se sont enivrés et ont enlevé et abusé la jeune épousée. Pour les Grecs, les centaures symbolisaient les instincts animaux dont la concupiscence et l'ivresque sont les traits caractéristiques. Une intense gesticulation exprime le désordre et la violence du combat. Les formes humaines et animales s'entremêlent. Il s'agit peut-être d'une évocation de la lutte entre la France et la maison d'Autriche après l'invasion en 1536 de la Provence par Charles Quint. À moins que l'allusion soit d'une portée plus générale, par exemple, une réflexion sur les horreurs de la guerre. Montre un détail de cette partie-là et l'intensité du visage. malgré le fait que la frette ne soit pas en très bon état. Dans ce tableau d'Isidore Patroin du 19e, François Ier confère à Rosso les titres et les bénéfices de l'abbaye Saint-Martin en récompense pour ses travaux. Malgré diverses transformations et altérations, la galerie François Ier reste l'un des plus extraordinaires décors Renaissance conservés en France. Voyons maintenant les travaux réalisés par le deuxième artiste, appelé à Fontainebleau par François Ier, Francesco Primaticcio, surnommé en France le Primatis, 1504-1570. Natif de Bologne, il était le collaborateur de Jules Romain sur le chantier du palais du Thé à Mantoue. Il arrive à Fontainebleau en 1532. Tout comme le Rosso, il constituait une équipe qui, sous sa direction, réalisa plusieurs des décors voulus par le roi. En 1534, il ornait les parois de la porte dorée de deux scènes de l'histoire d'Hercule. Donc voilà la porte dorée, la porte de la partie inférieure, et les deux fresques sont de part et d'autre de la porte. À gauche, Hercule habillé en femme par Omphale. Et à droite, Hercule chasse le dieu Pan du lit d'Omphale à coups de pied. Voilà, Omphale qui est ici. Quelques années plus tard, il a aussi décoré le vestibule derrière cette porte. Les six autres scènes, dont plusieurs sont tirées de l'Iliade d'Homère. Certains dessins préparatoires sont au Louvre. Nous en avons parlé il y a deux ans. Je vous rappelle que Benvenuto Cellini arrive en France en 1540. Il travaille d'abord à Paris pour le souverain. En particulier, il a fondu un Jupiter grandeur nature en argent qui a été présenté au roi à Fontainebleau dans la galerie de François Ier. De 1542 à 1545, il conçoit divers éléments de bronze destiné à orner la porte dorée. La pièce centrale, la nymphe de Fontainebleau, était accompagnée de deux victoires et de deux satyres. Je vous en rappelle la disposition. Alors, ces pièces de bronze étaient conçues pour être disposées sur cette porte, qui n'était pas comme ça à l'époque. La nymphe était ici. Les victoires étaient disposées dans les écoins à droite et à gauche. Et il y avait, à la place des colonnes, là, étaient prévus des satyres. Tout cela a été réalisé, mais jamais mis en place. Donc voilà les éléments que je vous avais montrés à l'époque, avec la nymphe de Fontainebleau qui est conservée au Louvre, les deux satyres et les deux victoires en haut à droite. Voilà la nymphe, qui est composé de plusieurs blocs de bronze. Hein. Tout n'avait pas été fondu d'un seul tenant. Alors, l'œuvre, je vous l'ai dit, est restée inachevée. La nymphe, solennellement conservée, s'est finalement retrouvée sur le portail du château d'Annette, et maintenant au Louvre. Avec les années, les chantiers se multiplient, en particulier après la mort du Rosso en 1540. Le Primatis est ainsi appelé à donner les modèles dessinés pour les fresques et les stucs de la chambre de la Duchesse d'Étampes, de l'appartement des Bains sous la galerie du Roi, on en a parlé, et de la galerie du Luxe. Chacune de ces commandes lui permet de diffuser le grand goût italien dans ce qu'il y a de plus moderne. Alors voici l'appartement du Roi qui était ici, de François Ier, avec ici on est à le donjon est ici, le donjon médiéval, et c'était sa chambre. Il disposait de trois autres pièces. Vous voyez que la galerie François Ier partait directement de ses appartements. L'aile qui a été la doublée au 18e n'était pas là. Il y avait ce petit cabinet dont j'ai parlé où il y avait des décors, mais qui a été supprimé plus tard. Là, c'est la salle de garde, mais Madame la Duchesse d'Étampes avait sa chambre ici, pas très loin, avec sans doute un appartement à côté. Il avait à portée de main. Voici ce qui reste de la chambre de la Duchesse d'Étampes. Alors là aussi, c'est encore quelque chose de compliqué. Le décor en stuc est d'origine. Simplement, les décors peints sont un peu plus élaborés. Alors, l'exceptionnel décor de fresques et les grandes figures maniéristes en stuc a été réalisé entre 1541 et 1544 par le Brimati sur le thème de l'histoire des amours d'Alexandre et de Roxane. Alexandre était probablement François Ier et Roxane la duchesse d'Étampes. Les stucs de cette pièce sont strictement ornementaux, pas de symbolique ésotérique comme dans la galerie. Ils se limitent à une glorification de la beauté féminine. En 1749, la pièce fut transformée en escalier par l'architecte Gabriel sur l'ordre de Louis XV. Alors, voilà la disposition, et vous voyez que le Primatis a peint les trois fresques de droite. Celles du fond ont été faites par Niccolò dell'Abate. Et les trois de gauche ont été complétés au XIXe siècle. Donc ça forme un ensemble, au premier coup d'œil, très cohérent, mais historiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc on va commencer de la droite vers la gauche. On va commencer ici par ce petit médaillon représentant Alexandre Dompton Bucéphale, mariage d'Alexandre et de Roxane, Alexandre et Parian Timoclée, on ne la verra pas parce qu'elle est vraiment au fond de la pièce. Et puis, les petits panneaux sont moins intéressants que les grands. Après la mort du Primatis en 1570, les décors furent complétés par Niccolò dell'Abate, puis en 1834 par l'intervention du peintre Abel de Pujol. Ainsi sont visibles du Primatis Alexandre Dompton Bucéphale, que vous avez sous les yeux. Le mariage d'Alexandre et Roxane. Et Alexandre, au fond, mais c'était sur la photo présente, Alexandre et Parian Timoclée. Puis, les deux panneaux du fond que vous avez sous les yeux sont de Niccolò dell'Abate. Alexandre fait serrer dans un coffret les œuvres d'Homère et Thalestris monte dans le lit d'Alexandre, ce qui est à gauche. Et enfin, le mur de gauche d'Abel de Pujol. La scène principale représente le banquet de Persépolis. L'ancienne chambre de la reine Éléonore a été aussi décorée, mais il ne reste qu'une toute petite partie du décor. C'est la chambre de la reine au XVIe siècle. Elle a été aménagée pour la seconde femme de François Ier, Éléonore d'Autriche, sœur de Charles Quint. La cheminée, le seul reste du décor imaginé par le Primatis, elle est ornée de stuc. La fresque centrale représente les noces de Vénus et Adonis, d'après un dessin de Jules Romano, connu en France sous le nom de Jules Romain. Après la mort du roi en 1547, les travaux sont poursuivis par son fils Henri II. L'architecte Philibert de Lorme devient le premier responsable du chantier. Il accepte les décors et les bâtiments en cours. Il achève les décors et les bâtiments en cours, comme la salle de bal. Voici la salle de bal, qui mesure 30 mètres de long et 10 mètres de large. Elle est éclairée par 10 grandes baies vitrées, 5 de chaque côté. À l'origine, c'était une simple loggia non fermée qui s'ouvrait d'un côté sur la cour ovale à gauche et de l'autre sur les jardins à droite. La salle devait être couverte d'une voûte en berceau, mais Henri II fit modifier le projet pour la transformer en une grande salle de réception et d'apparat afin d'y organiser les fêtes royales, bals et banquets. La cour était invitée à des bals masqués extravagants. Lors des fêtes, la table d'honneur était dressée sur des tréteaux près de la grande cheminée. Une fois le banquet terminé, on enlevait les tables pour danser. L'architecte Philibert Delorme a donné le dessin du plafond à caissons, décoré d'or et d'argent, inspiré directement du plafond de la basilique de Constantin à Rome. Il est exécuté à partir de 1550 par Francesco Sivec de Carpi, l'auteur des lambris de la Grande Galerie. Voici la disposition des fresques, on ne le fera pas en détail, avec l'emplacement des fenêtres hein, de chaque côté. Et au fond, il y a une cheminée monumentale. En général, on arrive par ici. Au-dessus de la porte d'entrée, il y a une galerie où se tenaient les musiciens. Au-dessus de cette loggia des musiciens, il y a une fresque dont on parlera rapidement. Voici donc la cheminée monumentale. Elle est aussi l'œuvre de Delorme qui utilisa deux satyres de bronze d'après l'antique exécutés au temps de François Ier par le primatis. Ces deux satyres ont été fondus à la Révolution et refaits en 1966. On les voit mieux ici. De part et d'autre de la cheminée, le programme iconographique est celui de la chasse. Alors, ici, il y a... Sébastien de Rabutin tuant un loup. Là. Au-dessous, c'est Diane, Cerbère et l'amour. En haut à droite, on ne voit pas très bien, c'est Hercule et le sanglier d'Érimante et Diane conduisant un char attelé de dragon. On le voit mieux. À l'autre extrémité, là on voit Diane, hein, et puis Vénus. Pardon. À l'autre extrémité de la salle, au-dessus de la tribune des musiciens, les fresques illustrent les plaisirs de la musique. Sur les murs latéraux, les fresques ne sont plus contenues dans des cadres, comme dans la galerie François Ier, mais court librement en une frise continue, débordant même sur l'encadrement des fenêtres. Les dessins furent réalisés par le Primatis et exécutés en fresque par Niccolo dell'Abate et ses assistants. Les peintures du décor s'inspirent de la mythologie gréco-romaine, certaines représentent des scènes de banquet, les sujets évoquent les destinations de la salle, bals et banquets. La première, que je ne vous montre pas parce que je n'ai pas trouvé de photo, représente le festin de Bacchus. Ici, nous avons Apollon et les muses au Parnasse. Les trois grâces dansant devant les dieux. Et les noces de Tétis et Pélée et la pomme de Discorde. D'autres fresques orne le mur de droite. La mort d'Henri II en 1559 entraîne la disgrâce de l'architecte Delorme. Grâce au soutien de Catherine de Médicis, le Primatis obtient sa nomination comme surintendant des bâtiments royaux. Suprême consécration pour un artiste étranger, il donne une orientation nouvelle à l'art. Entre 1565 et 1570, il édifie l'aile de la belle cheminée que vous avez sous les yeux. Cette aile a la particularité d'avoir deux escaliers à rampes divergentes qui magnifiaient l'entrée de l'appartement de Charles IX et qui représentent l'aboutissement de la Renaissance française. Les niches étaient ornées de bronze réalisé par le Primatis à partir des moulages faits à Rome. Il s'agit de dieux et de héros de la mythologie gréco-romaine. Ceux que l'on voit ici sont des copies des années 1930. Les bronzes anciens, on les a vus avant, sont dans la galerie des Serres. Voici, c'est une copie de celui qui est dans la galerie des Serres. C'est, l'Apollon du Belvédère. Je voudrais terminer en vous signant rapidement deux autres lieux où Luprimatis et Niccolo dell'Abate ont travaillé en parallèle au chantier du château de Fontainebleau. Un ensemble de fresques du Primatis orne la chapelle de l'abbaye de Chaly, près d'Ermenonville. Et le magnifique château d'Ancy-le-Franc a été construit par Sebastiano Serlio en 1544. Les deux plus célèbres décorations intérieures sont l'œuvre de deux artistes qui ont travaillé à Fontainebleau, le Primatis qui a fait le somptueux décor de la Chambre des Arts, et Niccolo dell'Abate qui a dirigé le décor de la galerie de Farsal, qui représente la bataille de Farsal opposant en 49 avant Jésus-Christ les troupes de César et de Pompée en Thessalie. J'espère que mes commentaires vous auront donné l'envie d'aller ou de retourner au château de Fontainebleau. Je vous remercie de votre attention. Et cette fois-ci, vous avez vu les images.
Ça change beaucoup pour ceux qui ont vu l'an passé, enfin qui ont entendu cette conférence l'an passé. Il y a un grand changement, c'est les images. Bravo Jean-Louis, quel boulot. Et les images étaient de belle qualité. Je crois qu'on a un peu de temps avant de descendre pour ceux qui mangent ici. Et donc, Jean-Paul, tu as une idée? 10 minutes. Bon, alors si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Bon. Ah oui.
Juste une question, qui a réalisé l'escalier du fer à cheval? L'escalier en fer à cheval.
C'est au 17e. Le nom de l'architecte m'échappe, pourtant il est très connu, mais c'était réalisé à l'époque de Louis XIII. C'est pour ça que je n'avais pas parlé, c'est que c'est hors sujet.
D'accord, merci beaucoup.
D'autres questions? Je crois que tu as bien montré l'extraordinaire richesse de ce château Renaissance. C'est tout à fait extraordinaire la qualité, le programme. Quoi.
Le programme, ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est qu'il n'y a aucune trace écrite qui explique qu'il n'y a que François Ier qui détenait l'intégralité des explications de ce décor et de ces fresques et de tout ce qui était alentour. Et on raconte qu'il a accompagné Charles Quint personnellement. Ils étaient tous les deux tout seuls dans la galerie déambulant, et François Ier décrivait, relatait chacun des détails de la galerie, mais personne, pas d'autres oreilles ne les ont entendues ce jour-là. Et il n'a pas laissé de traces écrites non plus. Ces explications que je vous ai données ce soir, comme je l'ai dit au début, elles sont multiples. J'ai parlé de cet abbé, là, je ne sais plus son titre, qui au XVIIe siècle a commencé à réfléchir pour essayer de trouver un sens aux fresques. Et après, il y a eu une multitude d'individus, historiens d'art et autres, ou artistes, qui ont essayé de donner du sens. Mais parfois c'était extrêmement incertain et parfois contesté par d'autres, et même encore maintenant il y a des incertitudes, en particulier sur tous les petits détails annexes. C'est d'une complexité formidable et on a du mal surtout à donner de la cohérence à l'ensemble, alors qu'il y en a probablement une cohérence.
D'autres remarques? Il faut remarquer que la séance a bien duré, donc on a quand même fait le tour du programme. Ce serait C'est bien, intéressant, hein, effectivement, d'y retourner. Nous, on y était il y a quelques années. Et c'était déjà un château tout à fait extraordinaire.
Façon, c'est un musée. J'ai dû y aller une bonne vingtaine de fois, au moins.
Ah bon.
Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau à découvrir, indépendamment des expositions temporaires qui sont intéressantes. Mais depuis une dizaine d'années au moins, surtout à partir de l'arrivée d'Annick Notaire, qui avait été conservatrice au musée des Beaux-Arts d'Orléans avant. Après, elle est restée 2 ans à Fontainebleau, elle connaissait parfaitement le sujet, et puis je crois qu'il y a eu, j'en suis pas sûr, mais il y a eu une incompatibilité avec le directeur en chef du château, elle est partie maintenant à La Rochelle. Mais dès son arrivée, c'était flagrant, de nouvelles salles étaient ouvertes, de nouveaux appartements étaient arrangés, etc. Et d'année en année maintenant, depuis son départ, le mouvement s'est poursuivi, il y a toujours de nouvelles salles qui sont ouvertes, des nouveaux décors, etc. Le dernier épisode, parce que une des parties du château est composée, et dans une partie du château, dans une partie de l'aile Louis XV, donc au sud du château, il y a le musée Napoléon. Ce musée Napoléon est d'une richesse effarante. C'est l'un des plus importants musées Napoléon de France par la qualité des objets qui sont présentés. Et il vient d'être enrichi par des achats. Et en plus, la surface de présentation, je crois que tout n'est pas absolument terminé, j'en suis pas sûr, il faut que j'aille voir pour voir ce qu'il en est, mais la surface du musée Napoléon a doublé en surface, parce qu'ils ont une telle quantité d'œuvres à présenter qu'ils ont fait des travaux d'agrandissement, voilà. Ça c'est le nouvel épisode, le dernier épisode, mais encore une fois, chaque année il y a de nouvelles choses qui sont présentées et des choses qui ne sont visibles que lors des visites guidées. Par exemple, il y a une galerie de peinture exceptionnelle, mais pour voir cette galerie de peinture qui est dans un endroit un peu retiré, il faut s'inscrire à l'avance. Le cabinet chinois d'Eugénie de Montiro, de l'impératrice Eugénie, est exceptionnel. Il y a eu un vol il y a quelques années, mais malgré tout, il est sans doute à nouveau visible, etc. C'est d'une richesse effarante. Et surtout, un musée, ce château était vidé à la Révolution, et quand Napoléon a voulu recevoir le pape Pie VII pour son sacre, il l'a logé à Fontainebleau. Et avant l'arrivée du pape, il a remeublé complètement le château avec des mobiliers anciens, mais surtout avec du mobilier empire. Ce qui fait que toutes les pièces, c'est exceptionnel, sont entièrement meublées, encore une fois, de mobilier ancien, du 17e, 18e, etc., mais aussi du mobilier empire de niveau famille impériale, quoi. Donc c'est magnifique. Voilà.
Ça serait le sujet d'une prochaine. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence.
Mais non, parce que c'est pas en relation avec l'Italie.
Et Napoléon en Italie.
Ah, mais ça, c'est Napoléon en Italie, c'est pas mon domaine.
Là, je veux dire, c'est vraiment. C'est prodigieux, puisque la famille Bonaparte.
Oui, c'est compliqué, mais là, c'est un gros sujet.
Je suis retirée
en Italie. Bien, on. Merci Jean-Louis, et puis donc, on pourrait se retrouver à Fontainebleau un de ces jours.
Ouais.